Espace 2, Jean-Luc Rider.
Bonjour, voici la lutherie au Moyen-Âge. Musique en mémoire.
Musique en mémoire.
Mais je vous en prie, installez-vous, reprenez place comme hier dans ce troisième atelier de lutherie ancienne qui s'est tenu, je vous le rappelle, la dernière semaine du mois d'août dernier à Gruyère. Nous étions déjà hier en compagnie de David Mestri à parler de ces instruments étranges. Hier, nous avons découvert ou redécouvert, peut-être pour certains d'entre vous, la guiterne, cet instrument typiquement médiéval, une guiterne que construisaient hier des luthiers, guiterne et luth. Aujourd'hui, il va être question à nouveau de luth avec le premier invité de David Mestri dans cette église Saint-Théodule de Gruyère, Francis Bidji, luthiste, à ses heures perdues, doyen du Centre de musique ancienne de Genève. Il joue aussi de la citole, un autre instrument étrange, luthiste de l'ensemble Lucidarium, qui est justement en train de s'accorder, que nous rejoignons maintenant.
Vous n'aviez pas encore testé l'acoustique, Francis Bidji?
Non, pas encore. Je viens de débarquer. Elle est jolie, l'église. Un joli retour. Ça dépend de combien de monde il y aura là. Hein.
Oui. Ouais. Les églises, c'est au moins un instrument authentiquement médiéval pour les ensembles.
Et encore, oui. Mais ce sont des lieux. À part le fait que, après. Cette musique n'était pas jouée à l'église, dans le sens que la plupart de la musique médiévale
qu'on connaît,
et de la musique renaissance aussi, n'était pas de la musique d'église. Et c'est intéressant parce qu'à la fin, on a créé une façon d'interpréter, de jouer qui est adaptée aux églises. Ouais. En général, on choisit des temps, des amalgames d'instruments et de voix qui marchent bien dans les endroits où on joue. Parce que, et comme la plupart des endroits sont des églises, en fait, nous, on fait un groupe de musique ancienne qui le fasse de façon, disons, volontaire ou totalement sans se rendre compte. Ils adaptent leur façon de jouer au lieu. Et le résultat, c'est qu'on a la tendance à... On joue de la musique profane, voire très profane, dans des églises avec des retours d'écho, des ambiances qui ne sont...
C'est plutôt un avantage pour un joueur de cordes pincées comme vous par rapport aux flûtes qui sont plus des instruments de plein air, je pense.
Ça dépend, parce que la flûte à bec en tant que telle n'est pas un instrument de plein air. Et il y a aussi déjà le fait qu'en principe, à un concert de musique ancienne, on peut avoir un public qui est nombreux. Ça nous met déjà dans une situation qui est artificielle. Oui, on peut bien se placer là avec un ensemble de 7 personnes et avoir un petit luth qui fait plim-plim. Alors, à ce point, on utilise des instruments qui sont des copies extrêmement rigoureuses, mais qui sont montées avec des tensions, un diapason, une hauteur des notes qui est conçue pour pouvoir obtenir le maximum de projection de l'instrument qu'on a.
Vous nous dites que vous trichez alors déjà à la Francis Bidji.
Mais la musique, moi, je reste de l'opinion que la musique ancienne est... En principe, une honnête tricherie. Oui. Parfois, mes collègues, mais pas tous, moi je connais la plupart des gens qui sont extrêmement honnêtes, qui disent que la musique ancienne est une interprétation, et le plus qu'on remonte, le plus que l'interprétation est arbitraire. On passe de minimum d'objectivité, minimum, parce qu'après, déjà travailler sur la musique baroque, on doit partir du concept que ce qu'on fait, c'est une interprétation que nous, on donne aux sources, pas seulement musicales, aussi théoriques, aussi formatives, pédagogiques de l'époque. Et ce que nous, on fait, c'est d'interpréter des mots qui étaient dits par des gens qui avaient un vécu, une façon de concevoir, de penser et une esthétique différente. Alors, quand on remonte dans le Moyen-Âge, c'est encore pire. Alors, disons que c'est une honnête tricherie parce que jusqu'au moment où on éclaire que ce qu'on fait, c'est du vraisemblable et pas du vrai, et que ce qu'on fait, c'est nos choix à nous, et qu'on a des raisons pour les proposer, ça va. Quand on commence à dire, l'art des troubadours, la polyphonie du XIVe siècle, alors là.
Surtout qu'avec l'ensemble Lucidarium, vous choisissez des répertoires qui ne sont pas ce qu'on a l'habitude d'entendre du Moyen-Âge, qui sont plutôt des répertoires d'origine plus anonyme.
Oui, oui, oui. Je dirais que on, comme tous les ensembles, dans un moment qui est d'un côté d'une crise généralisée de la culture, ou plutôt de la production culturelle, et d'autre côté, dans un moment où la musique ancienne devient de plus en plus spécialisée, ou si vous voulez, de plus en plus... au niveau, il faut voir des grands spécialistes. Une des possibilités, c'est de choisir des répertoires qui deviennent, d'un certain point de vue, un terrain privilégié. Nous, on était dans les Hautes-Alpes, au large de Nice, sur les montagnes, il y a 2 jours. On a fait un programme sur les Trouvères et les Minnesingues. Mais en principe, depuis plusieurs années, on travaille surtout sur la musique de la fin 15e siècle. Et en général, on se plonge sur des répertoires qui sont des répertoires de frontière. Notre cible est cette zone de gris entre écriture musicale et oralité. Et non pas dans le sens de comme on a fait très longtemps tous dans la musique médiévale, de faire semblant de faire de la musique populaire, de la musique folklorique avec le Moyen-Âge, mais plutôt se rendre compte que sur certaines formes de musique, sur certains répertoires, on est en face à une sténographie de la musique.
Si on ne prend pas un point de vue un peu folklorique, justement, pour retrouver cette façon de jouer, comment est-ce qu'on peut faire ça?
Eh bien, parce que, non, il faut prendre un point de vue qui tient compte de la tradition. Mais tradition et folklorisme, c'est 2 choses différentes. La difficulté, c'est de utiliser des formes de chanter, des moyens de jouer qui sont directement tirés de la tradition pour couvrir les trous. Et ça, d'un certain point de vue, n'aide pas parce qu'on nie la historicité. Je veux dire, ouais. Si la musique écrite, qui est une musique quand même qui était fixée, des répertoires qui ont été... sur une évolution conséquente a tellement changé, comment on peut penser qu'une musique ou des esthétiques qui étaient basées que sur la communication directe soient restées figées? Alors, mais il y a des données de fond dans l'oralité, par exemple la nécessité de travailler sur des stéréotypes, par exemple la nécessité d'utiliser des formules, par exemple le fait que l'improvisation n'est pas inventer une mélodie mais c'est varier autour de certaines structures, ou par exemple, comme on fera aujourd'hui, travailler sur la déclamation, qui est un peu le grand travail des dernières 10 années, parce qu'on sait, en Italie, au XVe siècle, une énorme partie du répertoire des Italiens était un répertoire de poésie chantée, et qui était chantée sur des modèles mélodiques dont on n'a aucune trace. Mais on a des descriptions très claires et très fidèles de ce qui était le style, ni parler, ni chanter. Alors, comment on a fait? On a travaillé grâce à... On a une chance énorme en Italie. La chance énorme, c'est que des structures, des façons de faire sont restées dans la tradition. C'est-à-dire, cette forme de chant improvisé sur les huitains d'endécasyllabes de déclamation est quelque chose qui est resté dans la pratique.
Qui permet de combler ce creux, ce trou.
Surtout
alors.
De se rendre compte de quel type de dynamique qu'il faut suivre dans la hiérarchie, par exemple, de la ligne en face du texte. Ceci, ça nous a permis, par exemple, de redonner énormément d'importance au texte. C'est-à-dire de remettre ça, de se rendre compte quelles sont les limites du travail qu'on fait avec la musique ancienne et quelles sont les données relatives au poids que le texte a en face, de, par exemple, de ce qui sera après la naissance de l'opéra.
Donc, prima les paroles, mais comment est-ce que ça se traduit donc concrètement? Quelle différence il y a avec d'autres visions de la musique médiévale?
Mais par exemple, on travaille sur des répertoires qui sont des répertoires qu'on approfondit énormément. Et puis, on se considère spécialiste de ça. On peut faire comme tous les ensembles, nos travail bien, honnêtement, sur les troubadours, etc. Mais notre travail, un travail en spécifique sur la musique italienne et sur ses formes. Et puis, bah, par exemple, vous verrez que quand elles chantent, et Viva chante et sa compagne, Gloria chante accompagnée, et elles utilisent des mélodies qui sont des mélodies tirées comme pattern, si vous voulez, de recueil, de polyphonie, où les polyphonistes, les frottolistes ont utilisé ce type de forme poétique. Voilà. Et sur la base de ça, ils ont fait un travail d'élaboration, de compliqué, mais linéaire à la fin. Je crois que la musique le ressort assez, assez clairement. Voilà.
On va vous écouter.
Derrière, là, il y a un instrument qui m'a beaucoup frappé, que je n'ai jamais vu, c'est la viola da penna, c'est ça?
Ça, c'est une sitole. Sitole. Je n'ai pas amené de viola da penna parce que je n'avais pas de pièce à jouer avec. C'est une sitole, c'est un instrument monoxyle, lui aussi. En fait, on l'a obtenu en collant tout ensemble deux pièces de noyer, qui a été après creusée.
C'est très étonnant parce qu'on dirait une sorte de guitare avec une perruque un peu. Ça me sortit d'un tableau de Frangelico. Ça semble vraiment. C'est des instruments qu'on.
C'est intéressant d'instruments, c'est ce type de clavier. C'est pas pour faire de la musique hawaïenne, mais ça permet d'ajuster l'intonation sur des accords qui ne sont pas tempérés.
Au lieu d'un manche avec des frettes, il y a des sortes de rails de chemin de fer. Là, c'est étonnant.
Oui.
C'est très, très spécial.
Et lui, c'est une liberté que je me prends parce que c'est un instrument plus ancien. Mais il me permet de faire des choses qu'on aurait pu faire avec le sistre. Et j'assume l'incongruence historique. C'est un instrument que dans cette forme a disparu dans la première moitié du 15e siècle. Il commence à développer. Mais très longtemps, ça reste proche de celui-ci, mais il redouble les cordes et tout ça. Mais en principe, c'est un sistre. Le sistre dérive directement de ce instrument.
Donc corde en métal.
Corde en métal, bien sûr. Avec des blocs comme ça, avec ce type d'attaque, c'était fort évidemment des cordes en métal.
Et on trouve des luthiers qui fabriquent encore donc,
des
choses comme
ça. Des luthiers qui fabriquent après qu'on les prie. Et lui, il est âgé, lui, il a 20 ans. C'est un des premiers instruments que j'ai fait faire.
Ouais. On doit absolument se baser sur l'iconographie, je pense, pour faire ça.
Il y en a une en Angleterre, au British Museum. Et c'est un instrument, en fait, la forme est celle-ci, un peu plus petit. Et c'est le seul instrument médiéval, c'est-à-dire vraiment ancien, il remonte là peut-être au XIVe siècle même, survécu en bonne condition parce qu'au XVIe siècle il a été transformé en violon. Et alors pour ce qui concerne le type de travail, on peut prendre des données assez précises. D'ailleurs l'iconographie pour cet instrument est assez claire. En toute Europe, c'est un instrument diffusé de l'Italie à toute l'Europe du Nord et en Espagne. Et il a toujours cette caractéristique, des blocs.
Redites-nous son nom.
Ça s'appelle sitole en français.
Sitole.
Oui. Et puis en italien, c'est la cetra. Cetola, ça change. À l'époque, les noms étaient des noms fréquemment très régionalisés. Alors,
mais cetra, c'est la lyre aussi, c'est la lyre d'Apollon.
Cetra, c'est la cetra, c'est-à-dire c'est l'instrument... Les anciens faisaient quand même une différence, ou ils avaient hérité une différence du point de vue de la catalogation. La cetra était vraiment cet instrument. La lyre, c'est un instrument qui disparut, et quand il retourne, en fait, c'est une vielle. Oui. Pour accompagner le chant, et on appelle ça lira d'abraccio. Et c'est un instrument bon, dérivé de la vielle, mais évidemment expérimental, conçu pour faire ça.
Mais la lyre d'Apollon, c'est bien la cetra.
Bien sûr, mais si on peut reconstituer toute l'évolution de l'instrument avec les deux cornes, si vous voulez, avec les cordes tendues, puis déjà au 8e, 9e siècle, on commence à soumettre une touche. Et puis, petit à petit, la touche devient la partie qui soutient la structure de l'instrument. Et en fait, ça, ce n'est pas ce ne sont pas des rosaces appliquées. Ce sont les vestiges des deux cornes, des deux montants de la cetra classique. Et on les trouve sur tous les instruments de la famille, n'importe où. Vous trouverez toujours où des petites pointes qui montent. Au XVe siècle, c'est vraiment deux barres comme ça qui n'ont aucune fonction, sauf que c'est comme dans la conte, non ? On maintient des structures qu'on ne sait plus à quoi ça sert, mais qui sont là et personne ne pense les enlever. Et ça reste jusqu'au XVIe siècle. Au XVIe siècle, la forme s'arrondit encore plus. Mais fréquemment, la cittola du XVIe siècle a ici juste un petit...
Les sortes de petites cornes sur les épaules de l'instrument.
On passe du modèle tardo classique, on passe au modèle germanique du psautier de Uppsala et de Utrecht, où il y a encore une manche très longue avec deux grands montants qui n'arrivent plus quand même jusqu'au bout, et puis petit à petit ça.
Un très bel exemplaire là, avec un mouton sculpté sous le manche.
Il a vécu beaucoup, il a subi plusieurs transformations, mais cet instrument, je dis toujours que je vais me faire ensevelir avec cet instrument.
Nous restons en l'église Saint-Théodule de Gruyère, toujours au cours de cette répétition de l'ensemble Lucidarium et toujours lors de ce troisième atelier de lutherie ancienne. Oui, nous restons en l'église Saint-Théodule, mais je me permets de saluer en votre nom Francis Bidji, luthiste et doyen du Centre de musique ancienne de Genève, et de saluer de votre part l'arrivée d'Avery Gosfield. Elle est une autre membre de l'ensemble Lucidarium. Elle en est en réalité la flûtiste et elle est en ce moment au micro de David Mestri.
Bonjour, Avery Gosfield.
Oui.
On parle beaucoup de lutherie là, à l'occasion donc, de ces ateliers. Le rapport d'une flûtiste à son facteur de flûte, on a l'impression que c'est moins prestigieux un facteur de flûte qu'un facteur d'instrument à cordes, un luthier.
Pas du tout, pas du tout. Nous, on travaille parfois avec des flûtes traditionnelles, mais il y a un très très grand facteur de flûte en Amérique qui s'appelle Bob Marvin, et toutes nos flûtes à bec, presque, sont de lui. Et c'est aussi pour ça que l'ensemble joue à 463. Alors, un demi-ton plus haut, oui, historiquement, c'est plus juste, mais aussi parce que Bob Marvin, il refuse de faire les flûtes Renaissance en 440. On travaille aussi très, très proche avec un facteur en Italie qui s'appelle Giovanni Brugnani. Et lui, c'est lui qui a fait la plupart des flûtes à trois trous, aussi une flûte soprane que Marco joue. Alors là, c'est aussi une relation très, très proche, quoi. On doit leur dire ce qu'on veut. On travaille aussi avec des différents types de flûtes, des flûtes coniques, des flûtes cylindriques. Alors, je ne trouve pas que c'est moins important.
L'ensemble Lucidarium, d'où vient ce nom d'abord ?
Alors, c'est un traité écrit par Marchetto da Padova, qui était un théoricien italien du XIVe siècle. Et ça veut dire manuel d'utilisation, plus ou moins.
Ça n'a rien à voir avec la lumière et
non,
la lucidité.
C'est comment enluminer les gens à faire quelque chose, quoi.
Et comment est né l'ensemble ?
Alors, l'ensemble est né à l'origine autour des 700 ans de la Suisse, parce que c'est un programme qu'on vient de faire, ça fait deux jours en Provence, qui s'appelle En chantant ma vena membrare, qui était construit autour d'un Minnesänger neuchâtelois, qui s'appelait Rudolf von Fenis Neuenberg, qui a fait des traductions des Trouvadours et des Trouvères. Alors, l'ensemble est né autour de ça et on a eu beaucoup de fortune parce qu'on a fait tout de suite des concerts importants. Et donc, à l'époque, c'était très, très proche à la Schola Cantorum de Bâle. Donc, tout le monde habitait à Bâle. Mais maintenant, l'ensemble est beaucoup évolué. Donc, à l'origine, les seuls membres originaux qui sont restés sont moi, Francis et Marco Ferrari.
Et ça s'est beaucoup italianisé, alors, puisqu'on a ces voix
Oui, pas mal, même s'il y a des projets qu'on fait avec des gens d'autres pays.
Et la partie de musique médiévale par rapport à la musique renaissante, vous faites une différence ou bien il y a des programmes vraiment plus anciens que celui que vous présentez aujourd'hui?
Ouais, on est très très conscient, par exemple, il y a beaucoup de changements dans l'instrumentarium. C'est aussi pour ça qu'on est parti avec deux voitures, parce qu'en faisant deux programmes différents pendant la même tournée, c'est très très différent, quoi. Certaines choses sont les mêmes, mais travailler avec la musique modale, par exemple, c'est toute une autre façon de jouer, accompagner les monodies médiévales. On joue beaucoup différemment, quoi. Aussi, la façon de produire le son chez les chanteurs, c'est différent. C'est-à-dire, on joue toujours pleinement, mais on essaie de suivre au moins la façon dans laquelle la musique, les textes sont écrits.
Dans ce répertoire de la Renaissance, qui, d'après le programme que j'ai lu un peu, reflète une sorte d'influence de la musique populaire dans les autres musiques, dans la musique plus savante qui a été prise donc, au cours de la Renaissance. Ça veut dire que plutôt au Moyen-Âge, c'était deux musiques très différentes.
Il n'y a plus de traces de la musique populaire au Moyen-Âge, pratiquement. On a beaucoup moins de matériel pour travailler. On n'a que les traces de la haute musique, quoi. Il n'y a pas de traces de la bourgeoisie, de la musique de la bourgeoisie, de la musique, soi-disant, des classes plus populaires. Parfois, on pense que c'est plutôt une question de la musique savante qui a son influence sur la musique populaire.
Et puisque vous présentez comme un répertoire mineur, alors même pour les 15e et 16e siècles, ça veut dire quelles sont vos sources? Ça doit être encore plus difficile à trouver que les grands compositeurs qu'on connaît de la Renaissance, autour de Josquin, etc.
Oui, c'est donc les frottoles, c'est-à-dire les pièces simples, la polyphonie simple. On aime l'appeler comme ça. Les frottoles, au point de vue de la polyphonie, les choses que les gens, puis même les courtiers, même les nobles ou les bourgeois, aurait pu jouer et chanter à la maison.
Et on en trouve des recueils imprimés,
oui,
des manuscrits?
C'est-à-dire les manuscrits et aussi les premières sources imprimées, comme le Décaton, comme les premières sources de Bossiniensis pour luth. Alors on travaille beaucoup avec ces sources. Et ce qu'on travaille, même depuis le Moyen-Âge, l'ensemble aime beaucoup travailler avec les sources qui sont survécues que dans la forme textuelle, donc les contrefacts.
Donc, qui n'ont pas été reprises ensuite dans des recueils?
Oui, non, mais ce sont parce qu'il était très très cher. Bon, d'abord, l'imprimerie de la musique a commencé au début du XVIe siècle. Et c'était très 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 cher. Alors, il y a beaucoup de sources où il n'y a que le texte. Et donc, les indications des musiques. Par exemple, un morceau qui était la base, quoi. Les musiques qui étaient chantées avec plusieurs textes. Alors, vu que c'était beaucoup plus économique, et les gens, ils connaissaient la mélodie, de toute façon, on travaille beaucoup avec ces sources. Et donc là, on a énormément de sources dont on n'a que le texte. Aussi, dans le programme qu'on vient de faire, en chantant « M'avana membrar », il y a les textes des Minnesänger qui sont clairement pris ou influencés ou des contrefacts des chansons de Troubadour, mais qui n'existent qu'en forme textuelle. Alors là, on fait un travail de reconstruction, quoi. On ne peut pas toujours savoir si ça a été chanté exactement à cette mélodie-là, mais on voit aussi de l'esthétique de l'époque que les gens ils voulaient exprimer. C'était les textes qui étaient exprimés toujours en chantant. Alors on trouve plus correct de prendre une mélodie et le chanter et faire une interprétation de ce texte entre la musique et le texte que le laisser dans le livre, quoi.
Et dans votre interprétation, c'est un ensemble assez riche, hein, il y a 6 instrumentistes. On voit bien nette aussi la séparation entre les vents et les cordes. Ça, c'est une constante depuis le Moyen-Âge jusqu'à nos jours dans l'histoire de la musique, aussi bien dans les orchestres qu'à l'origine.
Ça, je ne sais pas. Bien sûr, il y a des séparations entre les hauts instruments et les bas instruments. Et là, on travaille aussi beaucoup avec ça. On aime les sonorités qui changent. C'est aussi, on aimait comme ça sur le plan scénique, on travaille aussi comme ça. Mais on aime bien faire cette séparation entre les hauts instruments et les bas instruments, ça c'est sûr.
Et encore une chose à propos des canterines, c'est ainsi qu'on les appelait. Donc oui. C'était alors l'autre manière, c'était les paroles qui étaient improvisées sur des mélodies toutes simples, j'imagine. Il y avait des sortes de poètes populaires dans cette époque de la Renaissance, un peu avant en Italie, qui improvisaient comme ça des rimes. Oui. Est-ce que vous vous êtes frotté aussi à ce genre-là avec vos chanteuses?
Oui, et ben, pour les textes, elles n'improvisent pas, mais on a beaucoup de contacts parce qu'il y a toujours cette contraposition entre les interprètes et puis les improvisateurs. Et là, toujours en Italie, on va fréquemment, on a beaucoup de contacts avec une ville où la tradition est restée vivante, qui s'appelle Butti. Et là, on a, par exemple, deux messieurs ils ont 80 ans chacun. Et un, c'est l'interprète. C'est donc la personne qui sait comment il a mémorisé beaucoup de poésie. Il ne sait pas improviser des textes. Mais il sait chanter d'une façon dramatique qui exprime parfaitement le texte. Il y a un autre qui est l'improvisateur. Et c'est considéré un don qu'il peut improviser les textes. Et donc il y a toujours ce contraste entre l'improvisation du texte et donc l'interprète parfaite.
Et vous avez des chanteuses dans le groupe, Gloria Moretti,
oui,
et Viva Biffi.
Oui.
Et à l'époque, c'était plutôt des hommes qui chantaient ce répertoire-là ou bien pas forcément?
Je crois absolument pas, quoi. C'était une époque où il y avait de l'interprétation, il y avait une égalité, quoi. C'était normal pour les femmes, c'était une valeur, quoi, qu'elles chantaient ou jouaient aussi d'instruments, quoi.
Même pour des textes écrits pour des amoureux qui parlent de leur belle.
Mais oui, c'est normal. Je ne crois pas qu'il y ait une contradiction, quoi. Il y a aussi les hommes qui chantent des textes pour les femmes.
Avery Gosfield, flûtiste de l'ensemble Lucidarium, donc au micro de David Mestri. Vous vous souvenez bien sûr de Francis Biggi. Tout à l'heure, luthiste, il joue à Gruyère. Mais il cause aussi, puisque c'est au sortir d'une conférence que David Mestri l'a invité à se confier pour Musique en mémoire.
Même si ce n'est pas des temps où c'est très à la mode, moi je suis un farouche de ce ténor du relativisme absolu, culturel, religieux, politique.
Vous venez de nous en faire la démonstration, puisque vous avez parlé de montrer cette citole, et puis vous avez montré des plectres en plastique qu'on utilise pour des guitares électriques.
Oui.
Et voilà, et puis un morceau d'une époque où l'instrument n'existait plus.
Cet instrument n'existait plus, oui, bien sûr. Il y avait les cisters déjà, les cisters anglais, la cetra, 16e siècle. Il y avait j'ai un peu exagéré, il y avait un instrument proche, mais qui n'était sûrement pas utilisé pour faire cette musique, ça c'est clair.
Mais on a l'impression que c'est seulement par amour de l'authenticité qu'un musicien se plonge dans le Moyen-Âge, donc ce n'est pas du tout le cas ou pas vraiment le cas avec vous.
Non, c'est pas un souci d'authenticité. Je suis dans ça, si vous voulez, un peu... Moi, j'ai une formation d'historien, à la base. De musicien, oui, mais d'historien. Et travailler dans l'histoire comme matière, ça m'a quand même cassé beaucoup de rêves et beaucoup aussi d'idées préconçues. Je veux dire, travailler dans une matière comme l'analyse, se rendre compte à quel point l'histoire est une reconstitution qui change tout le temps avec l'époque différente, et qu'il n'y a jamais une histoire. Il y a une histoire qui est une façon de raconter chaque fois différente. Ça m'a vraiment cassé beaucoup de rêves, mais ça m'a, je pense, de mon point de vue, donné quand même une certaine pragmatisme que moi, et c'est purement individuel, j'aurais pu être assez sain. Voilà. Alors, on a de la place pour tout. On a de la place pour ceux qui pensent qu'il faut travailler dans des petites salles avec très peu de monde, avec une sonorité qui est une sonorité, entre guillemets, philologique, arriver à me démontrer qu'il s'agit d'une sonorité philologique. Jusqu'à quand on dit ça pourrait être comme ça, ça va.
Et après, il faut qu'ils mettent des costumes médiévaux aussi.
Ça, ce n'est pas nécessaire. S'ils veulent le faire, j'ai rien contre, mais je veux que la personne qui fait ça puisse me démontrer qu'avec son instrument, il peut faire tout. Parce que la vraie grande différence, c'est donner des limites parce qu'on n'a pas des capacités et c'est donner des limites parce qu'on fait des choix. Et de ce point de vue, quand on fait la musique ancienne, c'est ça. On choisit notre champ d'intervention, on choisit nous-mêmes nos points de repère et nos frontières. Mais à l'intérieur de l'espace qu'on construit, il faut être capable de démontrer la maîtrise de la voix, la maîtrise de l'instrument. Il n'y a pas de son technique pour chanter, ni de son technique pour jouer. Il y a une façon pour apprendre à chanter et jouer comme il faut, et après, on plie si on est vraiment capable, sa technique et ses capacités à ce qu'on veut faire.
Vous avez dit que la cithole est un instrument très important dans l'évolution. On peut repartir donc dans l'antiquité aussi, avec dans l'évolution entre la lyre, qui est la lyre qu'avait Néron lorsqu'il a mise à feu Rome, et jusqu'aux guitares modernes. Donc c'est un lien essentiel.
C'est un lien continu. En fait, Néron jouait vraiment de la cithare, parce que les anciens faisaient la différence entre la lyre, qui était l'instrument d'Orphée, alors l'instrument de l'amateur, par identification même, parce qu'Orphée ne se faisait pas payer. Orphée était quelqu'un qui avait poussé tellement sa maîtrise, son don divin était tellement grand qu'il pouvait arrêter les fleuves et faire bouger les pierres. Ça, c'était un don surnaturel, ce n'est pas le métier d'un professionnel. Les professionnels utilisaient un instrument gros qui s'appelait la chitarra, creusé avec des planches, des tables en bois déjà fort probablement, on les voit décorées et troué de façon que ça ne peut pas être de la peau, et qui était des instruments à forte projection pour pouvoir jouer devant un public, qui était un public de rue, qui pouvait être un public à un dîner, qui était quand même un instrument de professionnel. Et Néron, qui se prétendait acteur et tragicien et poète digne d'un maître, jouait la cetra.
Qu'on traduirait en français, c'est difficile, parce qu'on dit cithare, on a tout de suite l'équivoque avec un instrument
oui,
qui est...
Oui, il y a cithole, si vous voulez, le modèle, l'instrument ancien, médiéval, on a tendance à l'appeler cithole pour la France. La chitarra grecque, la chitarra classique reste, la chitarra avec l'accent bizarre, mais bon.
Ce qui est étonnant aussi, c'est que dans cette histoire des instruments, on a un parallèle aussi étonnant avec la paléontologie et l'histoire des ossements, parce qu'on voit qu'il y a des parties d'instruments archaïques qui sont restées en perdant leur fonction, donc les sortes d'arches de ce qu'on a dans la tête comme une lyre ou comme justement cette cithare ancienne que jouaient les antiques, eh bien elles subsistent dans des sortes de cornes, des bouts, comme, un peu comme la dernière vertèbre qui nous subsiste dans le corps humain, comme vestige de l'époque reptilienne.
Ah mais ça fait partie de la construction du monde, je veux dire, l'expérience humaine est pleine de vestiges. Ce n'est pas nécessaire d'aller puiser jusqu'à dans Prop et dans les racines historiques des contes de fées, ou dans le structuralisme mi-20e siècle pour se rendre compte que la culture humaine est faite de vestiges qui perdent petit à petit leur signification, qui en acquiert une autre, et où que tout simplement ça reste comme une vestige pas expliquée ou avec une explication qui est purement fonctionnelle pour en justifier la raison. Ça arrive avec les contes d'enfants, ça arrive avec la notation. Nous, on continue à écrire quand même le C au début d'une partition sans savoir qu'à l'origine, c'était le signe qui indiquait le tempus imperfectum pro latio minor, qui était un signe spécifique de la notation médiévale, et que lui-même puisait d'une symbologie qui est une symbologie moyenâgeuse d'imperfection, où le rond était la perfection. Voilà, alors... nous sommes submergés, ça c'est une banalité, mais nous sommes submergés dans un univers qui est rempli de symboles et parfois de signes qui n'ont plus une raison d'être. Mais les petits particuliers de la citra, de la chitarra, si vous voulez, de cet instrument de transition des premiers siècles de l'ère vulgaire jusqu'à l'instrument moyenâgeux, jusqu'à la Renaissance. Au XVIIe siècle, on faisait encore des cetres ou des sisters, comme on appelait ça en Angleterre, qui tenaient, juste avant l'attaque de la Manche, de petites bosses qui n'avaient aucune fonction, mais qui étaient la vestige dernière de ces deux cornes qui montaient, et puis des fleurs, et puis, voilà.
Des instruments qui, aujourd'hui, donc, dans la famille du luth, se sépare, on pourrait dire, une famille d'instruments qui ont donné la guitare. Et puis, ça, c'est un instrument, la guitare, ses formes antérieures, qui a subsisté jusqu'à nos jours, alors qu'on a eu, pour les luths, on a eu un trou historique dans la tradition occidentale. Est-ce qu'on arrive à l'expliquer ?
Le trou est dû, je pense, à une raison qui est essentiellement pratique. C'est la même raison pour laquelle le clavecin disparaît. C'est que la musique avait pris une direction qui préférait le volume et la richesse des harmoniques à la délicatesse et à la clarté du son. Le luth est un instrument polyphonique extrêmement complet, extrêmement vertueux, mais à un certain moment, il perd d'importance en face de l'évolution du clavecin. Et la guitare, petit à petit, mais très tardivement, acquiert une importance à partir de la fin du XIXe siècle en tant qu'instrument polyphonique grâce à certains maîtres qui décident d'en faire un instrument de concert, mais elle aurait pu avoir une histoire comme le sousaphone, comme les ondes Martenot, je veux dire, d'instruments de niche ou d'instruments qui ne va plus loin d'une utilisation partielle. Bon, vous savez, moi, je reste convaincu que l'histoire ressemble beaucoup plus au vol d'un papillon, si vous voulez, qu'en ligne droite, une série de spirales qui se reviennent. On n'a qu'une idée de la direction que ça prendra. Et pour la musique, c'en est autant. Il n'y a rien de ce qui arrive. Si on regarde l'histoire de la musique, il n'y a rien qui soit conséquent en tant que nécessité. Tout vient d'une série de changements qui sont connectés l'un à l'autre, mais qui auraient pu prendre complètement une autre direction. Et pour les instruments, c'est la même chose. Et la citole a survécu dans des formes pratique encore très utilisée parce que c'est un instrument de musique populaire qui a assumé une fonction importante. On a considéré au XVIe siècle l'instrument des magasins de barbier, de barbershop. Il y avait toujours un citola, un cetra pendu parce que c'était un instrument facile à l'époque avec un accord qui lui permettait de faire des accords simples et on s'accompagnait pendant qu'on était au barbier en attendant, en grattant la citar qui coûtait aussi très peu en face d'autres instruments. Et voilà que c'est resté, c'est devenu un instrument de très apprécié dans la musique populaire, au point tel que les grands virtuoses de guitare portugaise sont les derniers maîtres de l'instrument et qui viennent d'une généalogie illustre qui remonte à la nuit des temps.
Et le banjo, là, vous me faites penser au banjo. C'est aussi une sorte de forme avec les barbershop songs et tout ça.
Non, le banjo a une histoire encore plus fascinante qui m'appassionne beaucoup parce que c'est un de mes grands instruments aimés et adorés, pas joué malheureusement, mais j'en écoute beaucoup. Le banjo vient d'un instrument africain, le banjar, qui était un instrument dérivé d'un instrument nord-africain tel que le guinbri, les instruments marocains faits avec un corps relativement petit, une manche ronde en bois, une table en peau collée. Et il était l'instrument amené par les esclaves, joué avec une technique pincée pouce index, et au 19e siècle, il est déjà dans, il est encore pas frété avec des cordes en boyau utilisées pour mener la danse. On le voit fréquemment représenté dans les représentations de couleurs, dans les mains des Noirs, dans les plantaisons. Et ce n'est qu'aux années 15-20, avec la naissance de ce forme de spectacle américaine qu'on appelle le minstrel song, c'est-à-dire les Blancs qui se teintaient, oui, en noir et qui chantaient comme le chanteur de jazz, justement, et que l'instrument se transforme et qui devient ce qu'on connaît maintenant.
Encore une question, Francis Bidji. Vous avez montré votre sitol là, que vous utilisez en concert, que vous avez enregistré, qu'on a entendu sur les enregistrements. Oui. Et vous dites que c'est un instrument qu'il faut faire avec, qui a été construit il y a 25 ans, qui a plein de défauts, soit historiques, soit... pourquoi est-ce que vous n'en faites pas faire un autre? Pourquoi est-ce que les luthiers ne se mettent pas à faire des sitols?
Écoutez, je dirais que ce n'est pas un instrument avec des défauts, c'est un instrument avec des limites, qui sont les limites de l'instrument. C'est un instrument qui a été retouché fréquemment, non pas pour éliminer des défauts, mais pour le modifier selon des nécessités. En ce moment, c'est, de mon point de vue, c'est ce que de mieux que je peux attendre. J'ai eu des autres instruments. J'en ai eu fréquemment. Parfois, quand je trouve un jeune luthier ou un maître confirmé qui a envie de se mettre dans une galère comme réinventer un instrument qu'il fera après 3 fois dans sa vie, je demande. J'en ai au moins 4 à la maison. Et celle-ci est de loin la meilleure. C'est un excellent instrument avec des qualités de chaleur de son que moi j'adore, qui a mûri avec moi, qui a grandi avec moi. Et je dis toujours à ma fille et à ma femme que le jour où je vais mourir, je la mène avec moi. Et tout le reste, vous faites ce que vous voulez, mais la sitole, ça va venir avec moi. Oui, exactement. Voilà. On fait, même si c'est une petite bêtise de musicien désormais mûr et qui commence à avoir un certain âge, moi je me considère un joueur de cetra, beaucoup plus qu'un luthiste. C'est l'instrument avec lequel je me sens mieux.
Francis Bidji, luthiste et conférencier, donc au micro de David Mestri. Mais souvenez-vous, hier nous étions déjà à Gruyère, mais nous étions dans les cuisines du château en compagnie de David Mestri et de luthiers, et notamment de David van Edwards, maître luthier anglais, tout à la fabrication d'un instrument. On en était hier aux prémices. Faisons un petit tour pour voir où en sont les instruments aujourd'hui, à quelle couche de vernis on en est.
Voilà cette cuisine. C'est une grande salle voûtée, c'est splendide. Hein. Il y a des poulies d'un côté, et une immense cheminée, c'est ça qui fait que c'est une cuisine avec une grosse poutre devant, un énorme tirage, des chaudrons qui sont suspendus du plafond au bout de chaînes, et puis une sorte de four à pain comme dans une pizzeria, un peu un grand four à pain très profond, four à bois, et une fenêtre dans un coin étroit avec une superbe vue sur l'Intiamont. Sur la vallée qui monte, tout le sol est pavé. Et alors la salle d'à côté.
On voit le chevalet qui est très particulier. C'est un pont avec 2 arches et le centre ne touche pas la table avec un tout petit crochet. Vraisemblablement sur le mode de ces instruments où on veut entendre un zzzz avec les notes. Ouais, ça fait une vibration. Il y a des harpes qui ont des petits crochets en dessous qu'on peut appuyer contre la corde pour obtenir le même effet. Et ça, c'est un peu une supposition d'après ce modèle. On fait des essais à partir de là. Il y a beaucoup de suppositions à faire quand on a seulement ça comme point de départ.
C'est bien.
David van Edwards, le luth est bien avancé depuis l'autre fois. Il n'a plus son moule, donc on a enlevé la partie intérieure qui servait à préparer les côtes pour les coller dessus. Toutes les côtes y sont, ça ressemble vraiment déjà à un luth. Un des stagiaires là, est encore en train de coller ou
rajuster. Nettoyer la colle.
De nettoyer, d'enlever la colle, donc la colle.
Toutes les tâches de colle qui, après le collage des côtes, et de la colle a débordé. Et donc, il faut enlever cette colle qui a débordé. Il faut l'enlever avec de l'eau chaude.
Et un pinceau.
Et un pinceau, voilà.
Et l'instrument est encore tenu par toutes sortes de pinces, dans un genre de pinces à linge, mais médiévales.
Des renforts Donc nous avons collé un renfort à l'intérieur et à l'extérieur.
D'accord, il n'y a pas encore la table harmonique, donc on a vraiment une coque creuse formée de toutes ces bandes parallèles. Et puis, il y a une sorte, oui, c'est aussi des renforts à l'intérieur, une sorte de papier, ça c'est moins médiéval, de sorte de panne de scotch.
Non, it's medieval. Yes,
ah,
non. Yes, yes,
ah, c'est des bouts de parchemin, alors
Medieval, perhaps, yes, yes, it would be parchment.
Au Moyen-Âge, oui, peut-être que ça aurait été des parchemins, mais en 1450, ils parlaient déjà de papier, donc c'était possible, mais cher.
Et le manche est prêt aussi, apparemment, à couder avec tous les trous pour les différentes chevilles. Alors, le gros du travail est terminé, qu'est-ce qu'il reste à faire, David Van Aert?
Le devant, la table, doit encore être muni de barres et les rosaces doivent être terminées et collées et le chevalet sur le devant et le tout assemblé. Espérons-le pour samedi.
Et puis après, il y aura encore le vernissage, la peinture, c'est ça?
Yes, yes, vernissage. It will have to be varnished later. It's not possible.
Pas dans cet atelier.
Yes, it's varnish made with oil and.
Oui, il faudra le vernir plus tard. C'est un vernis fait avec de l'huile. Et cela prend un jour à sécher pour chaque couche, et il faudra 6 ou 7 couches. Mais c'est un vernis que nous faisons nous-mêmes à partir de pain et d'huile de lin portée à ébullition. C'est très dangereux, et ça marche très bien.
C'est vous qui allez faire la partie du vernissage?
Je le fais moi-même, et Philippe Motterio le fait de son côté. Ce sont des recettes médiévales, redécouvertes relativement récemment. Ça a toujours existé, mais personne n'avait réalisé que ça marchait. Mais c'est formidable et très facile à fabriquer. Et ça donne un très beau vernis qui dure des centaines d'années parce qu'il prend simplement grâce aux rayons ultraviolets de la lumière. Au contraire des vernis modernes pour lesquels on met des métaux lourds comme du cadmium ou du plomb, pour créer des liaisons croisées entre les polymères. Le nôtre repose sur les UV pour faire rebondir les molécules et elles s'assemblent pour faire un réseau solide.
Alors, à l'époque médiévale, il n'y a pas encore ce grand mystère qu'on souligne souvent pour la lutherie crémonaise, des vernis irremplaçables d'un Stradivarius.
Exactly, this is the varnish. It was no great secret. He didn't write it down because everybody knew it. Everybody used it.
Exactement, c'est ce vernis-là. Ce n'était pas un grand secret. Il ne l'a pas consigné par écrit parce que tout le monde le connaissait, tout le monde l'employait. C'était tellement évident. Et ce n'est que dans les 20 dernières années qu'on a réalisé qu'il n'y avait pas de secret. Maintenant, pour Stradivari, l'attention se porte sur ce qu'il mettait sous le vernis. Et peut-être qu'il mettait une sorte d'enduit qui était intéressant, de la cendre volcanique qui était commune autour de Crémone. Mais je soupçonne que c'était pour lui simplement comme du mastic, c'était rien de spécial. Mais le vernis est très bien, il dure sans problème des centaines d'années. Le problème des vernis modernes est que les métaux lourds continuent à travailler et le vernis devient de plus en plus cassant, dur et il se craquelle, mais celui-ci
remains good.
Et tout le corps de cet instrument est encore en bois clair, donc en épicéa. La coque, c'est pas l'épicéa, pardon.
Non, c'est érable.
En érable, pardon.
Yes.
En érable, d'ailleurs, avec des ondes, oui.
Yes. Yes.
Comme d'ailleurs la table d'un violon.
Yes.
Mais ça va être verni en foncé, c'est ça? La partie de la coque, la plupart des luttes qu'on voit comme modèle sont d'une couleur brun très foncée.
Ah, yes. The other lute has got a different color wood and.
L'autre lute là-bas a un bois d'une autre couleur et un vernis clair. Celui-ci sera verni avec un peu de couleur pour le rendre brun comme un violon. Les goûts diffèrent pour les couleurs, mais le luth médiéval est de couleur plutôt claire, d'un brun assez clair, très transparent, pour qu'on puisse voir les ondes de l'érable à travers le vernis.
J'admire le travail des joints, puisque c'était la partie la plus délicate, c'est ça, c'est de faire toutes ces lattes extrêmement lisses pour pouvoir les coller l'une à l'autre.
Ils ont fait du bon travail, ils l'ont réalisé superbement. Et vous avez vu les rosaces?
And have you seen the roses?
Not yet, non?
Oh, right, yes.
Alors là, il y a les modèles.
One under the other. This one is that curly
oui.
Rose there.
Ah, ça c'est la rose centrale de la guiterne, c'est ça?
Yes, yes, that's right. Yes.
Et ça c'est celle du luth.
Yes, yes. So there's going to be three layers.
Donc il y en aura trois épaisseurs et celle-ci sera celle du bas.
Il reste le cercle extérieur alors de la guiterne.
Yes, yes, it's going to be just like that, really. Yes.
Et vous êtes décidé finalement pour la guiterne pour une forme de d'alien pour la tête ou bien qu'est-ce que c'est
une idée de circuler à Pau,
parce qu'on est dans le village de Guiguerre.
Sorry, we've decided to make the
head. Oui, nous avons décidé de faire la tête comme l'alien de Guiguerre. Parce que beaucoup de guiternes originales ont des têtes d'animaux, ou des diables, des bêtes féroces ou cette sorte de choses. Et il nous semble que ce sera une très bonne version moderne du même thème avec Alien. Et ça en fera clairement une guiterne de Gruyère.
On est tout près du musée de Guiguerre ici avec ces animaux fantastiques.
La dame du musée Guiguerre a téléphoné à Guiguerre lui-même et il a dit oui, que l'idée lui plaisait. Et donc nous avons reçu la permission.
On verra ça, oui. Ce sera une des dernières parties, la sculpture de la tête.
Yes, Laurent is going to do it after the course is finished.
Oui, Laurent le fera après que le manche sera terminé. Voilà, c'est net, la porte des cuisines du château de Gruyère s'est refermée, laissant derrière elle David von Edwards, luthier donc, à cette cuisine si mystérieuse qui consiste à recréer des instruments médiévaux. Mais nous restons musicalement dans le domaine de l'art médiéval, avec trois pièces, successivement une page anonyme intitulée « Dami Conforto », puis une page qu'on pourrait attribuer à Perrotin, je vous demanderai ce que vous en penserez, intitulée Clausola, et enfin une ultime page anonyme, Sulla Rivera, par des membres de l'ensemble Lucidarium, dirigé par nos deux invités du jour, Avery Gosfield et Francis Biggi.
Di
Quelques pages tirées du répertoire médiéval de l'ensemble Lucidarium, qui était en quelque sorte notre invité dans Musique en mémoire, après avoir été celui de l'atelier de lutherie ancienne. Cette émission Musique en mémoire est terminée pour aujourd'hui. Demain, nous retrouverons David Mechtri avec d'autres invités, toujours pour la lutherie au Moyen-Âge. Mais cette émission peut compter chaque jour sur l'assistance de production d'Isabelle Watson. C'est aujourd'hui David Mechtri qui signe la réalisation de cette proposition de Jean-Luc Rider.
Espace 2. Des copies de nos émissions au 026 323 24 24. Notre adresse internet, espace2.ch.
L'affaire vous intéresse. Chaque émission de Musique en mémoire s'entend aussi la nuit, dès minuit, en nouvelle diffusion sur Espace 2. Mais nous, c'est bien demain à 9h que nous avons rendez-vous pour la suite de cette série La lutherie au Moyen-Âge. D'ici là, je vous souhaite de très doux moments, pourquoi pas ici ou là, à l'écoute de nos programmes. Bye bye.
Espace 2, Yves Bron.
Musique symphonique pour une grande partie du programme d'aujourd'hui, des grandes formations orchestrales, des chefs aux gestes amples et énergiques, la mèche souvent collée au front. Nous allons nous plonger dans le répertoire de Bruckner, Schumann et Mozart. Une heure de musique germanique donc. Bonjour et bienvenue.
L'île au trésor.
Et nous allons consacrer la première demi-heure d'émission à un jeune chef allemand, Christian Tillmann, un Berlinois de 46 ans, qui est entre autres aujourd'hui général Musikdirektor du Philharmonique de Munich, mais qui a déjà dirigé les plus grands orchestres du monde, alors digne héritier de Furt, Wengler et Karajan pour certains. Il a d'ailleurs été l'assistant de Karajan pendant plusieurs années, géant teuton à la gestique brutale pour d'autres, 1,90 m et environ 100 kg, avec un menton bien carré pour agrémenter le tout. Tillmann ne fait visiblement pas l'unanimité, mais c'est souvent le cas pour des personnalités fortes du petit monde de la musique. Alors vous l'aurez compris, ce n'est pas dans la musique de chambre qu'il exerce son art. Nous allons l'entendre ici à la tête du Philharmonia de Londres, une œuvre romantique, comme il les affectionne, l'ouverture de Manfred de Robert Schumann, inspirée du poème dramatique de Byron. Un poème qui évoque l'amour coupable de Manfred pour sa sœur Astarté, un amour qui a entraîné la mort de celle-ci. Emmuré dans sa souffrance et rongé par les remords, le pauvre Manfred erre, cherchant à trouver le repos et le pardon de sa sœur. Soudain, la voix d'Astarté s'élève.